talmudique. Une émission de Marc Alain Waknin. Julia Kristeva, bonjour.
Bonjour.
Romancière, psychanalyste et philosophe, professeure émérite de l'Université française, auteure de plus de 40 ouvrages traduits dans le monde entier, docteur honoris causa de nombreuses universités à travers le monde, on ne compte plus les prix qui vous honorent et les thèses de doctorat qui vous seront consacrées. Vous êtes une femme engagée tant sur le plan universitaire que dans diverses actions sociales, politiques et spirituelles, mais il serait peut-être plus simple de dire que vous êtes aujourd'hui une des intellectuelles les plus importantes du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Nous nous sommes déjà rencontrés la semaine dernière pour parler de Proust et du judaïsme à l'occasion du centenaire de la parution du premier tome de « À la recherche du temps perdu ». Nous avons évoqué à ce moment-là la question essentiellement de l'identité chez Proust. Et nous avions écouté un morceau de l'opéra « La Juive » de Fromental à Lévy que j'aimerais que l'on réécoute pour se remettre un tout petit peu dans l'histoire, dans le bain, si vous voulez, et pour rajouter quelques précisions qui me semblent éminemment intéressantes par rapport à cet opéra. Alors là, c'est l'air le plus célèbre de l'opéra La Juive. Et vous rappeliez dans votre livre Le temps sensible, l'expérience Proust et l'expérience littéraire que ce morceau était tout à fait présent et central dans la recherche. Rappelez-nous le contexte.
Il s'agissait d'un des personnages de la recherche qui est un grand-oncle, puis c'est le grand-père du narrateur qui redonne l'air Rachel, grand du Seigneur, lorsque le narrateur invite un ami juif. Et il fredonne en disant « Tilam, Tilam, Tilam ». Vous m'avez rappelé combien cette non-existence des termes français renvoie au nom d'Adam, peut-être, ou le manque de âme, peut-être.
Peut-être peut renvoyer au Talmud.
Il peut renvoyer
Le Talam, Talam, Tilam, Talam.
Tilam, Talam, qui pose... Adam, quelque part, comme ça, dans les inconscients de ceux qui écoutent. Et dans le mot Adam, il y aurait une lettre, une syllabe qui renvoie à la question de quoi.
Oui, alors là, vous faites du Talmud live, si on peut dire. vous faites ce qu'on appellerait en hébreu un chidouche.
Je m'approprie.
un chidouche, c'est-à-dire une sorte de nouveauté exégétique. Parce que vous entendez et on ne l'avait pas évoqué de cette façon-là la dernière fois, mais vous entendez dans le tilam que fredonne le grand-père ou le grand-oncle, le âme de Adam, de Adam, par rapport à la question. Si j'ai voulu...
Vous l'avez suggéré. Moi, je fais un peu d'inflation talmudique, mais vous m'avez incité à le faire.
Voilà. Alors, c'était tout à fait inconscient chez moi, en tout cas. Et si j'ai voulu reprendre cette deuxième émission avec cette musique, parce que, comme nous l'avions vu la dernière fois, le livret nous propose immédiatement qu'il y a là un nœud éminemment complexe quant à la question des identités. Car l'héroïne, qui s'appelle la juive, en fait s'appelle Rachel, c'est une fille adoptée, mais elle n'est pas juive. Son amoureux, qui s'appelle Léopold, n'est pas juif, mais se fait passer pour un juif. Et comme je disais, c'était une identité dialectique complexe qui ouvre sur cette question être ou ne pas en être, ou être ou ne pas être juif. Ce que je voudrais aborder dans cette seconde émission, c'est la question suivante. Est-ce que cette question de l'identité, est-ce que justement est-ce qu'elle est qu'identitaire, psychologique ? Est-ce que c'est juste le drame intérieur très personnel de Marcel Proust, tiraillé entre la synagogue de la rue de la Victoire et l'église de la Madeleine ? Ou a-t-elle aussi une fonction dans l'écriture de Proust et, au-delà de l'anecdote sociale, dans son esthétique du roman ? C'est-à-dire, autrement, en quoi est-ce une question intéressante pour le lecteur, cette question de la judéité ? Et qu'est-ce que cela apporte à la compréhension de la lecture en général ? Qu'est-ce que cela apporte à la littérature, Julia Kristeva ?
Oui, je crois que nous sommes ici au cœur d'un problème qui concerne Proust, mais qui concerne aussi la création de l'œuvre d'art et surtout de l'œuvre d'art chef-d'œuvre comme la recherche. Proust donne d'abord, on l'a dit dans l'émission précédente, aborde une question politique qui est métaphysique et à laquelle il donne une réponse esthétique qui est par conséquent aussi philosophique et spirituelle. La question, si vous permettez de schématiser un peu ce qu'on vient de dire, est la suivante. Être ou ne pas être, c'est la question de la métaphysique occidentale et on la trouve aussi dans les courants spirituels, y compris dans le judaïsme, vous l'avez dit. La Révolution française, la grande coupure que nous avons faite, c'est le terme qu'emploient Tocqueville et Hannah Arendt, on a coupé le fil de la tradition, a consisté à dire on remplace être ou ne pas être, divagation métaphysique, par en être ou ne pas en être. Vous êtes de quel côté ?
Quel bord ?
De quel bord ? À droite, à gauche, quelle communauté ? Bourgeois, prolétaires, on connaît la réduction de l'expérience humaine et les drames que cette réduction produit. Ce n'est pas seulement cette réduction, il y a des causes économiques et autres qui ont conduit aux catastrophes, mais il y a aussi cette réduction. Proust se moque de cette réduction. Il la trouve nécessaire parce que c'est l'histoire. Il faut en être aussi de l'histoire pour voir comment se passent les choses. Il faut vivre la tragédie de cela, la tragédie de ceux qui sont exclus, juifs, homosexuels et autres. Tragédie aussi de ceux qui perdent leur influence. Les aristocrates qu'il peint ne sont pas que des monstres, ils le sont, mais en grandeur aussi. Il y a cette passagèreté de l'aristocratie qu'un peu de démocratie va effacer. Il décrit aussi tout cela. Et en même temps, il ne prend pas parti pour revenir à la pureté de la solution spirituelle. Sa réponse va s'appuyer sur des éléments souvent refoulés des religions, qui sont la coprésence de l'être et du néant, du positif et du négatif. Et de ces coprésences-là, de cette sensibilité spirituelle qu'il vit lui-même, parce qu'il veut à la fois en être et ne pas en être, être juif et chrétien, et ni l'un ni l'autre, et les deux à la fois, aller à la synagogue et aussi à la Madeleine. Il va essayer de trouver le langage pour ça. Il va essayer de trouver une rhétorique qui n'est pas qu'une forme, ce n'est pas du formalisme, c'est une philosophie. Sa forme, et c'est pour ça qu'il s'acharne par des pages et des pages à faire des longues phrases, c'est pour donner une nouvelle forme de pensée. Je crois que c'était un peu ça le sens de mon travail aussi, ne pas réduire Proust à une invention, à un gadget de plus, à un formalisme nouveau, même si ça passe par le formalisme, mais de dire que c'est une forme de pensée qui consiste à multiplier les identités et à les vivre dans leur pluralité possible, qui n'est peut-être possible pour l'instant que dans le cadre d'un livre. Peut-être ce n'est pas facile d'être dans ce multivers dans la société. Il faut prendre position, il faut se battre. Mais même si je le fais, même si je prends des positions, même si je suis militant juif ou chrétien ou Dieu sait quoi, n'oublions pas que la vérité n'est pas là. Ce n'est qu'une vérité de surface qu'il faut souvent accomplir. La vérité est dans cette pluralité, dans cette interrogation infinie qui fait que la judaïté se déplace, y compris chez Charlus. Il y a Madame Cotard qui lui dit « mais c'est peut-être une Israélite bavarde ». Est-ce qu'elle le dit par bêtise ou parce qu'elle a une intuition? Elle trouve même du judaïsme, fut-il caricatural, chez Charlus, qui est le moins juif de tous. Parce que vraiment, il y a celui qui trouve que les ghettos, le plus parfait, c'est quand il est homogène et complet. C'est déjà le camp de concentration. Il y a deux choses me paraissent refléter cette immanence de la dissémination identitaire dans le style de Proust. D'une part, les personnages. Les personnages ne sont pas des statues. Il dit que ce sont des géants qui, parce qu'ils sont sur les échasses du temps, englobent le temps. Mais ils sont aussi des réverbérations de cette identité plurielle. Ils sont caricaturaux, ils sont gentils, ils souffrent, ils sont juifs, ils sont chrétiens, on ne sait pas trop. Et ceci n'est pas seulement une banalisation, comme sera le cas de Jacques de Rosier, Albert Bloch deviendra Jacques de Rosier, il est comme tout le monde, il est insignifiant. Ça devient au contraire l'intérêt du personnage moderne, en tant que personnage. Mais ce n'est plus une statue, c'est une réverbération, et c'est la lanterne magique qui représente le mieux la conception de la personnalité chez Proust. Ça scintille, ça se projette sur un tableau, sur un mur, et j'épouse ces réverbérations. Deuxième point où cette identité est plurielle et réverbératrice, c'est les questions des noms. Qui sont mon ami et maître Roland Barthes a beaucoup parlé de ça, et c'est l'ironie. Mmh. Et je pense que nous devons peut-être éléments.
On va le visiter, mais je souriais en vous écoutant parce que je pensais à ce monsieur Bloch, justement, qui veut échapper à son judaïsme et qui ne trouve rien de mieux que s'appeler Jacques du Rosier, voilà. Du nom de la rue des Rosiers, qui est justement le paradigme même du judaïsme parisien. J'aime beaucoup cette évocation que vous faites de Barthes, votre maître et ami, dans un de ses articles, un de ses fameux articles qu'il avait consacré à Jacobson, un article s'appelle « Proust et les noms ». Il dit une chose très importante que j'aimerais citer parce que je crois que c'est un peu la clé de notre conversation. Il dit « Le nom propre est à la fois un milieu, au sens biologique du terme, dans lequel il faut se plonger, baignant indéfiniment dans toutes les rêveries qu'il porte, et c'est un objet précieux comprimé, embaumé qu'il faut ouvrir comme une fleur. Et il ajoute un peu plus loin, l'onomastique proustienne, c'est-à-dire les noms, paraît à ce point organisée qu'elle semble bien constituer le départ définitif de la recherche. Tenir le système des noms, c'était pour Proust, et c'est pour nous, tenir des significations essentielles du livre, l'armature de ses signes, sa syntaxe profonde. Et je ne résiste pas à vous citer encore une fois le Zohar, que Proust a peut-être lu à ce moment-là, c'est que, et toujours en évoquant cette herméneutique de la valeur numérique, parce que dans le Zohar, c'est répété plusieurs fois, le mot « nom » en hébreu « shem » et le mot « livre »« sefer » ont la même valeur numérique 340. Julia Kristeva.
Oui, c'est vrai que les noms ont un statut très particulier parce qu'ils sont habités par énormément de connotations, à la fois historiques, liées à l'histoire des personnages ou à l'histoire des villes, des endroits où se passe l'action. Je ne résiste pas, moi non plus, à la tentation de vous lire quelques définitions du nom par Proust. Et comme vous dites, ça va le guider dans la construction des personnages.
Il y a un des passages dans la recherche où cette couleur est extrêmement présente, c'est quand il évoque le nom de Roussainville. Mmh. Je cite le texte de Proust. Il dit je ne suis pas, c'est dans Combray. Je ne suis pas certain, dit-il, de l'étymologie de Roussainville. Je croirais volontiers que le nom primitif était Rouville, et entre parenthèses, il met Radulfi Villa, comme Châteauroux, Castrum Radulfi. Mais, ajoute-t-il, je vous parlerai de cela une autre fois. Qu'est-ce que cela vous évoque, Julia Kristeva ?
Ça m'évoque le fait que à Roussainville, il y a une séquence particulière où la servante Françoise va faire son marché pour samedi. Et tout le monde se met à table plus tard parce qu'il y a le rite de samedi. Donc le rite de samedi, c'est le Shabbat. Mmh. Donc elle fait son marché. Et mieux que ça, dans les archives des brouillons, on trouve que à certaines étapes de la recherche, Françoise était adepte de l'ancien rite juif. Mmh. Et elle va être déjudaïsée dans le courant de la recherche, mais elle va devenir donc ce personnage qui fait le joint entre les basses classes et les gens bien, la haute société, entre le christianisme et le judaïsme. Et il va y avoir beaucoup d'éléments propres à elle et au narrateur. Par exemple, elle aime beaucoup un certain nombre de bêtes qu'elle va tuer, comme le narrateur tue ses personnages vivants, ses prototypes, pour en faire des héros de son roman. Et quand elle prend ses bêtes adorables et savoureux que tout le monde va manger, elle commence à leur couper la tête en disant « sale bête, sale bête », et elle est farcie d'une autre substance. Comme l'écrivain coupe les têtes des vrais protagonistes, en crée des personnages avec beaucoup de sadisme et de violence, et met des substances de lui à l'intérieur. Donc c'est cette assimilation entre lui et la servante, non seulement montre son côté féminin, son côté cuisinier, mais aussi trahit son appartenance à l'ancienne loi, comme
cette vieille loi juive à laquelle il fait allusion. Voilà. Et mais en même temps, vous dites dans votre livre, Le temps sensible, l'expérience Proust et l'expérience littéraire, que ce Roussainville n'est pas anodin quant à ça. Quant au mot, vous avez évoqué les couleurs. On pourrait voir chez Proust, c'est Barthes qui le rappelle. Il dit quelque chose de presque aussi célèbre que le sonnet des voyelles de Rimbaud. Je lis le texte de Proust. « Bayeux, si haute dans sa noble dentelle rougeâtre, et dont le fait est illuminé par le vieil or de sa dernière syllabe. Vitré, dont l'accent aigu losanger de bois noir, le vitrage ancien, le doux lamballe qui, dans son blanc, va du jaune coquille d'œuf au gris perle, Coutances, cathédrale normande, que sa diphtongue finale, grasse et jaunissante, couronnée par une tour de beurre. »
Vous voyez, ce côté coloré renvoie à la passion qu'il éprouve. Tous les sens sont... Donc, on dit, c'est lui qui devient vision et qui peuvent devenir goût aussi. Donc, tous les sens sont convoqués.
Et alors, justement, par rapport à ce Roussainville, qui va être le lieu de cette vieille tradition juive qui est le samedi, est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, par ce choix du roux, de la couleur rouge, quelque chose qui renvoie particulièrement au judaïsme?
Oui, beaucoup de chercheurs se sont penchés là-dessus. Moi, j'ai retenu, par exemple, la rousseur juive de Gilberte, la fille de Swann, dont le narrateur va être amoureux. On trouve aussi le rose dans le Dame en rose, qui est Odette. Je parlais d'Oriane tout à l'heure, ça devient même rouge, et c'est extrêmement sensuel, violent même, radical, et extrêmement aimé par Proust, parce que ça va être son objet d'amour, Oriane comme la mère idéale qu'il voudrait avoir, donc le rose rouge est maternel, mais curieusement ça devient aussi paternel, parce que le père du narrateur n'est pas juif, mais quand il devient attractif et intéressant et l'auteur se passionne pour lui, il ressemble à Abraham et il a un cachemire rose et violet. Donc le rose intervient de nouveau comme teinte qui indique cette appartenance juive. Mais le rose nous permet d'entrer au niveau des passions avec les femmes, avec le féminin, avec le paternel, quelque chose qui ne se dit pas mais qui se voit, qui se sent, qui s'entend et qui est le secret du narrateur.
Alors, secret du narrateur, vous avez dit le mot clé, parce que j'ai entre les mains un livre qui en français s'appelle le livre de la clarté ou le livre de secret, dont le nom en hébreu s'appelle le Zohar. Vous signalez très bien dans votre livre que Proust a eu entre les mains le Zohar en 7 volumes
de la traduction de Jean de Poli.
Mais vous imaginez, je dirais, ma surprise, ma joie, ma jubilation.
Parce que vous l'avez lu, moi je n'ai pas lu en entier.
Mais justement, je vous demanderai de ne pas le lire en entier. Et je demanderai aux auditeurs de jamais lire en entier le soir, de ne lire que la première phrase. Vous savez pourquoi? Parce que je lis la première phrase, regardez, je l'ai amenée.
Oui, oui, oui.
Rabbi Chizkia ouvrit une de ses conférences par l'exorde suivant. C'est une formule classique quand on dit étudier, on ouvre les mots. Et il cite un verset du Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. « Telle que la rose entre les épines, telle est ma bien-aimée entre les jeunes filles. » Alors vous avez le mot « jeune fille » qui va être réapparaître dans « à l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Et vous avez la première réflexion, c'est la rose, avec la couleur rose. Mais je continue, parce que vous dites que le rose est du côté du judaïsme chez Proust. Que dit le Zohar? Il pose la question, que désigne le mot rose? Et je pourrais transformer la question. Que désigne la couleur rose? Il désigne la communauté d'Israël. En quoi ça intéresse ce qui nous intéresse et vous intéresse? Vous avez posé un jour la question, dans une autre émission, est-ce que nous sommes capables d'entendre la leçon de Proust qui nous apprend à lire? Est-ce que nous sommes encore capables de lecture qui nous transforme, d'une lecture qui est une expérience? Or, ce que vous nous apprenez, c'est que l'expérience littéraire de Proust, c'est qu'en lisant, on se transforme. Mais cette transformation, me semble-t-il, en lisant votre texte, est de l'ordre du déplacement. Et là, j'ai pensé, c'est un petit peu biographique, mais ça me fait plaisir de le citer. On a cité Barthes tout à l'heure, et je pensais à un texte de Barthes sur Julia Kristeva, qui s'appelle, il a consacré en 70 un très très beau texte qui s'appelle « L'étrangère
oui, ». Oui.
Et il dit « Lui devant déjà beaucoup, il parle de vous, et dès le début... Je viens d'éprouver une fois de plus, et cette fois-ci, donc il parle d'éprouver, donc c'est une expérience, cette fois-ci dans son ensemble, la force de ce travail, donc la force de votre travail. Et quelle est-elle? Force veut dire ici déplacement. Julia Kristeva change la place des choses, elle détruit toujours le dernier préjugé, celui dont on croyait pouvoir se rassurer et s'enorgueillir. Ce qu'elle déplace, c'est le déjà dit, c'est-à-dire l'insistance du signifié, c'est-à-dire la bêtise. Or, tout ce que vous dites aujourd'hui continue ce déplacement des identités pour qu'on ne s'enferme pas dans quelque chose de propre, de pur, qui serait justement de l'ordre de la bêtise. Je dirais enseignement politique d'une éminente portée aujourd'hui. Et il m'a semblé que cette histoire du rouge qui amène cette note entre parenthèses Radulfi Villa, on ne sait pas pourquoi, il dit comme Châteauroux, Castrum Radulfi. Et j'ai pensé à castration, qui veut dire en fait, j'étais surpris de ce déplacement, c'est pour ça que j'ai pensé au déplacement, qui va de villa à Castrum, qui est à la fois château, si présent à propos de Guermantes, mais Castrum, c'est aussi le coupé, le retranché, le camp retranché, le coupé du monde, coupure que Proust met en lien avec la circoncision, dans cette mauvaise blague de Charlus. Je comprends qu'ils aient reculé devant le coupé surperfétatoire, ça aurait été un recoupé. Inutile de couper celui qui l'est déjà. Et donc, je me suis dit que le rouge renvoyait au castrum, qui renvoyait à la circoncision, et c'est ce déplacement, cette force du déplacement, que vous nous avez invité à découvrir dans le texte de Proust, comme expérience littéraire. C'est-à-dire que peut-être on aura répondu, je ne sais pas, Julia Kristeva, à votre proposition d'apprendre à lire avec Proust.
Oui, c'est tout à fait symptomatique et actuel ce que vous dites à propos de ce rouge qui renvoie, je disais, à la passion, qui renvoie à l'amour, mais qui, dans le judaïsme, n'oublie jamais la dimension tranchante de l'expérience, et c'est-à-dire amour-haine, la violence de l'amour. Très souvent, on essaye d'abâtardir cette histoire d'amour en parlant de tolérance, de gentillesse, d'acceptation, de respect. Et je crois que ce que la rose, qui est devenue dans le christianisme la rose mystique, mais il y a beaucoup de fleurs aussi dans la mystique arabe, donc on peut ouvrir cette dimension dans le non-dit de beaucoup de religions ou dans l'ésotérisme dans beaucoup de religions. Ce à quoi cela renvoie, c'est l'importance de la violence reconnue pour créer une alliance. Il n'y a pas la communauté esthétique à laquelle il nous invite pour lire et pour avoir de l'expérience n'est pas du bain-marie, n'est pas de la madeleine tiède, avec du thé tiède. Il y a de la violence dedans. Et le fait que ça renvoie à la circoncision, pour lui, je pense, indique à la fois la peur que ça représente, ancre, comme Freud l'a fait, la peur du judaïsme sur la peur de la castration, pensée, imaginée comme une coupure radicale et mortifère, alors qu'elle enchaîne des liances et des reliances à Kedah et autres communautés mystiques. Ceci, il nous invite à le lire et à le comprendre par la lecture elle-même. Pourquoi ça apparaît dans la lecture ? Déjà, avec cette coprésence, avec haine, amour, positif, négatif, ridicule, sublime, qui blesse et qui en même temps nous fascine, mais aussi par la notion de mouvement que cette lecture implique. Quand on lit ces phrases, on est parfois perdu. C'est une mise à mort de notre compréhension et ça nous incite à allumer d'autres capacités de présence au monde, sensorielle, mémoriale, qu'est-ce que ça vous évoque ? Et ça met le sens en mouvement. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit de nouveau, dans ces mouvements de crise, nous vivons en politique aussi, de dire qu'il y a du sens, mais il ne peut pas s'arrêter. Ne le verrouillez pas. Et pour ne pas le verrouiller, faites-le saigner et rire. Et peut-être pour finir, à partir de cette notion de mouvement, je pensais à une phrase que Philippe Solers évoque à propos de Proust, mais qui renvoie à Pascal. dont on connaît aussi les accointances avec le judaïsme, et qui dit quelque chose qui est très proustien, mais à la lumière de ce que vous avez montré aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est être et ne pas être, positif et négatif, amour et haine, et qui donne un nouvel élément à notre existence au monde. Il dit ceci, « Qui a trouvé le secret de se réjouir du bien sans se fâcher du mal contraire, on est là dans votre amphibologie, aurait trouvé le point. Mais ce point, c'est le mouvement perpétuel. Donc c'est à partir de là, à partir de ces ambiguïtés, que le sens peut bouger et il devient drôle et il ouvre le mouvement de la vie et du sens en même temps.
Merci infiniment, Julia Kristeva, pour cette magnifique leçon de lecture et de vie. J'espère, en tout cas, c'était votre souhait. Vous le dites souvent, nous devons apprendre de Proust la possibilité de lire en nous transformant, que la lecture soit une véritable expérience. Nous allons continuer le mouvement entre la rose et ses épines, entre tous ces personnages qui nous ont émus, qui nous émeuvent et qui nous construisent.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Waknin préparée en collaboration avec Françoise-Anne Ménager. Réalisation, Dany Journeau. Au revoir, Julia Kristeva.
Au revoir.